Le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Séquence gaullienne pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'est recueilli sur la tombe du fondateur de la Ve République avant un discours devant le Conseil constitutionnel pour relancer sa réforme institutionnelle. Devant les prud'hommes d'Amiens, retour sur la fermeture de l'usine Goodyear. Plus de 800 anciens salariés accusent la direction de licenciement abusif. Elle assure avoir tout fait pour sauvegarder l'emploi. Des cyberattaques attribuées à la Russie, dénoncées de toutes parts. L'Union européenne, l'OTAN, le Canada et les États-Unis s'en prennent aux renseignements militaires russes. En Indonésie, les autorités se sont données jusqu'à demain pour tenter de retrouver des survivants du séisme et du tsunami qui ont frappé l'île des Célèbes. Plus de 1400 corps ont été retrouvés et une centaine de personnes sont toujours portées disparues. Ne lui parlez pas de Gérard Collomb. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est tout à la célébration des 60 ans de la Constitution. Il s'est d'ailleurs rendu sur les terres du général de Gaulle, à Colombelles-les-Deux-Églises. Le chef de l'État a visité la boisserie, la maison du général, et il s'est recueilli sur sa tombe. Mais il a tout de même dû répondre aux interpellations de retraités inquiets, Maxence Lambrecq.
Pas la moindre interpellation sur Gérard Collomb et ce futur remaniement. Lui reconnaît en aparté que c'est une question importante, mais ça viendra en temps voulu, car ici, face au cimetière, l'urgence, c'est de répondre à la grogne des retraités. Il les salue un par un.
Comment ça va ? Vous allez bien ?
À peu près, mais j'ai une petite retraite.
Elle est de combien ? Elle est de combien ?
J'ai 500 euros de retraite.
Alors celle-là est...
Hein ? Et... Alors faites quelque chose.
Mais vous savez, moi je ne donne que l'argent que je prends par ailleurs.
Voilà.
Non mais, il faut avoir, il faut être raisonnable.
Pédagogie dans la bonne humeur, jusqu'à ce que le président relativise toutes ses plaintes.
Le petit-fils du général, tout à l'heure en me faisant visiter la boisserie, m'a dit, on pouvait parler très librement, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est se plaindre.
Ah bon ?
Eh bien, c'est je trouve que c'était une bonne pratique qu'avait le général. Si vous savez, le pays se tiendrait autrement, ça n'était comme ça. Non mais, on ne se rend pas compte de la chance immense qu'on a. Écoutez, on vit de plus en plus vieux dans notre pays, en bonne santé. C'était plus dur en 58 qu'aujourd'hui. C'était beaucoup plus dur.
Voilà comment Emmanuel Macron tente de consoler les retraités et peut-être se consoler lui-même. En 58, en pleine guerre d'Algérie, ce n'étaient pas des ministres qui chancelaient, mais bien les institutions elles-mêmes. Quand on se regarde, on se désole, résume un élu. Quand on se compare, on se console.
Emmanuel Macron est maintenant rentré à Paris pour un discours devant le Conseil constitutionnel. Il a déjà dit tout à l'heure à Colombey son attachement à la Ve République. Il juge la Constitution suffisamment solide et souple. Elle permet d'éviter la tyrannie de l'immédiateté, a déclaré le chef de l'État, même si lui-même, dans l'immédiat, apparaît fragilisé, Stéphane Robert.
Oui, cette Constitution est extrêmement solide. Elle protège le chef de l'État, car il ne peut pas être destitué par le Parlement. C'est lui qui peut dissoudre l'Assemblée, pas l'inverse. Et il dispose d'un pouvoir très important parce que un, il peut s'appuyer sur une majorité à l'Assemblée nationale qui procède directement du résultat de l'élection présidentielle. Et ensuite, parce que deux, son pouvoir de nomination, pouvoir de nommer notamment le Premier ministre et les membres du gouvernement, le place en position de chef tout puissant de l'exécutif. Alors maintenant, le fait que la Constitution le protège et lui confère d'importants pouvoirs ne suffit pas à lui donner une capacité d'action. S'il est affaibli dans l'opinion, s'il est contesté, ses décisions peuvent générer des mouvements d'humeur pouvant aller jusqu'à la paralysie du pays. On a connu ça par le passé, notamment en 95 avec une tentative de réforme des retraites. Et puis on a vu avec François Hollande que ça pouvait conduire le président en exercice à ne pas pouvoir se représenter. Dès lors, si la contestation dans l'opinion est trop importante, le chef de l'État dispose d'une action qui se réduit, d'une capacité d'action qui se réduit en proportion. Et c'est bien ce qui est en train d'arriver à Emmanuel Macron en cette rentrée interminable où il enchaîne les déconvenues. Lui qui avait placé son quinquennat sous le signe d'une autorité restaurée du chef de l'État et qui avait réussi à incarner la fonction se retrouve fragilisé, car il semble subir les événements, ne plus avoir prise sur le cours des choses. Et désormais, un doute est en train de s'installer dans l'esprit des Français. Toute la question est de savoir s'il pourra redresser la situation, car si la Constitution protège le président dans sa fonction, elle ne garantit pas de sa capacité à incarner cette fonction. Ça, c'est à l'homme, Emmanuel Macron, de montrer qu'il est à la hauteur.
Stéphane Robert, il a fallu délocaliser le Conseil des Prud'hommes d'Amiens au Palais des Congrès, grande salle de spectacle de la ville, pour pouvoir accueillir l'ensemble des plaignants. Plus de 800 anciens salariés de l'usine Goodyear d'Amiens Nord réclament une indemnisation à leur ex-employeur. Pour eux, leur licenciement en 2014 était abusif au vu des résultats bénéficiaires du groupe. Mais au cours de l'audience, Catherine Pétillon, ce sont deux lectures d'une même situation qui se sont affrontées.
Oui, deux histoires bien différentes ont été racontées aujourd'hui au cours d'une audience fleuve. Les avocats ont chacun livré un récit du combat qui oppose depuis 10 ans les ex-salariés à la direction et surtout des raisons qui ont amené le groupe à fermer l'usine d'Amiens-Nord. Aujourd'hui, ces ex-goudières éprouvent colère, révolte et aigreur. Ça aurait pu être évité, rappelle d'emblée leur avocat, Fyodor Rylov. S'appuyant sur le bilan annuel du groupe, il égrène les chiffres de bénéfices records, les dividendes versés multipliés par 4 l'année même de la fermeture. Tout cela devant des dizaines d'anciens salariés venus assister à l'audience. Devant ces mêmes personnes, l'avocat de Goudière explique combien l'entreprise a toujours cherché à préserver l'emploi à Amiens-Nord. C'est un groupe responsable dans une démarche d'accompagnement psychologique et financier des salariés. Je suis sûre que vous connaissez beaucoup de gens qui ont été licenciés et qui n'ont pas été traités de cette manière, ajoute-t-il, après avoir dressé la liste des aides offertes au moment de la fermeture.
Et les arguments juridiques reflètent les points de vue diamétralement opposés, Catherine.
Oui, les débats ont été très longs sur des points juridiques précis, mais tous montraient cette divergence d'analyse. D'abord, les résultats des groupes. Les deux parties ne s'entendent pas sur le niveau d'endettement, n'avancent pas les mêmes chiffres, mais surtout, elles n'en tirent pas les mêmes conclusions. Pour la défense, désendetter le groupe était une obligation et c'est la nécessité de rester compétitif qui justifie les licenciements économiques. Pour l'avocat des ex-salariés, dès lors qu'un groupe peut verser 10 millions de dividendes, c'est que le désendettement n'est pas la priorité. Autre grand point de clivage, où faut-il tourner le regard vers la multinationale ou vers le site d'Amiens-Nord. Pour Maître Fyodor Rylov, avocat des salariés, c'est une évidence. La maison mère a organisé la baisse de la production et planifié la fermeture. Un discours de façade. Pour les médias, s'emporte l'avocat de la défense. Pour lui et son client, c'est le refus des salariés de s'adapter et de changer leur organisation qui les a rendus moins compétitifs, ne laissant d'autre choix à Goudière que de fermer. Les ex-salariés espèrent entre 2 et 4 ans de salaire d'indemnité, mais cela ne rendra pas notre travail, ça ne changera rien aux séparations, aux suicides, rappelé devant la salle d'audience, Michael Wamen, ex-leader des CGT. Le territoire est particulièrement sinistré économiquement et sur le millier de salariés licenciés, pratiquement aucun n'a retrouvé d'emploi stable.
Catherine Pétillon, en direct du Palais des Congrès d'Amiens. Quand l'EPR de Flamanville sera-t-il prêt à fonctionner? Personne ne peut le dire avec certitude, constate le ministre de la Transition écologique. François de Rugy en tire la conclusion suivante. Il faut revoir le principe de concomitance entre le démarrage du réacteur et la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Véronique Reberotte.
Bonsoir, oui. Jusqu'ici, la fermeture de la vieille centrale de Fessenheim, de ses deux réacteurs régulièrement à l'arrêt, était conditionnée à la mise en service de l'EPR de Flamanville. La doyenne de nos centrales ne fermerait que quand l'EPR fonctionnerait enfin. Mais quand? C'est un calendrier, semble-t-il, impossible à tenir concernant Flamanville, qui pousse l'État donc à changer son fusil d'épaule. Déjà, Nicolas Hulot avait laissé entendre en avril dernier que le gouvernement pourrait revenir sur le principe de concomitance des deux opérations en cas de nouveau retard de calendrier à Flamanville. Retard confirmé en juillet par EDF, l'opérateur annonçait un nouveau report du démarrage de l'EPR en juillet dernier, donc en réseau de travaux de soudure à effectuer sur des tuyauteries défectueuses, pas plus tard qu'hier. L'autorité aussi de sûreté nucléaire faisait savoir qu'un travail technique important restait à faire. Ce matin, donc, François de Rugy, ministre de l'écologie, répondant à une question sur les déboires du chantier de l'EPR de Flamanville, n'a pas pu faire autrement que de constater qu'il y avait, je cite, « manifestement quelques problèmes autour du développement du projet d'EPR », c'est le moins qu'on puisse dire, au minimum 8 ans de retard pour ce chantier, pour un coût réévalué à ce jour à 11 milliards d'euros au lieu de 3 milliards initialement prévus. Un vrai cauchemar pour EDF, dont on peut dire sans s'avancer qu'il n'est pas tout à fait terminé. Alors, en ne liant plus la fermeture de Fessenheim à la mise en service de Flamanville, le gouvernement peut malgré tout se fixer un calendrier, même flou. Fessenheim fermera pendant ce mandat, assuré François de Rugy, au plus tard donc en mai 2022.
À Colmar, où il présidait un comité de pilotage sur l'avenir du territoire après la fermeture de la centrale de Fessenheim, Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la transition écologique, a promis une aide de 10 millions d'euros en 2019 pour financer des projets locaux. Près de 1500 établissements ont participé à la première journée du droit dans les collèges, une initiative conjointe du ministère de l'Éducation nationale et du Conseil national des barreaux. Le droit, matière absente du secondaire et dont les avocats sont venus livrer quelques notions aux élèves. Le thème de cette année, les règles de droit sur les réseaux sociaux, un écho à la hausse constatée ces dernières années du cyberharcèlement en milieu scolaire. Florence Turm a suivi les échanges entre une trentaine d'élèves de 5e et l'avocat Xavier Autin au collège Jean-Baptiste Sey de Paris.
Quand vous allez sur un réseau social, vous vous inscrivez, on est d'accord?
Okay.
Vous remplissez un certain nombre d'informations.
Oui.
En faisant ça, qu'est-ce que vous faites? Vous souscrivez un contrat.
C'est un engagement.
Quand tu vas acheter ton pain, tu passes un contrat. Vous faites du droit et vous ne le saviez pas. Et sur Facebook, on est d'accord. Quel âge as-tu ?
12 ans.
Les conditions d'accès normalement Facebook, c'est 13 ans, âge minimum. Pourtant, il faut renseigner sa date de naissance, non ?
J'ai mis une date au hasard. Comme ça.
T'as mis une date au hasard. La date au hasard, elle était supérieure à 13 ans. Voilà. T'as pas forcément respecté le jeu, on est d'accord. Dès lors que tu ne respectes pas les conditions d'utilisation, celui qui fournit ce service, Facebook, est tout à fait légitime à venir te dire « Stop, fini, tu as violé la règle ». Vous avez tous les réseaux sociaux, vous êtes dans un vestiaire, vous êtes en marge de votre cours d'éducation physique. Un élève qu'on va appeler Tom prend un petit film alors que Lucas est en caleçon dans le vestiaire. Et il le diffuse. Est-ce que Tom a le droit de faire ça ?
Non, parce que c'est quand même du viol d'intimité et que bah ça se fait pas.
Ton image est un bien extrêmement précieux. Et puis par un effet de groupe, vous pouvez avoir un enfant qui va être pointé du doigt par une classe entière et les réseaux sociaux peuvent amplifier le phénomène.
C'est des gens qui commencent à dire des trucs méchants. Donc par exemple, moi, c'était une victime, donc ils me pointaient du doigt en disant des trucs méchants, par exemple PD ou... Des trucs comme ça. Ouais. Puis ils disaient que je faisais des actes sexuels alors que c'était complètement faux. Mm-hmm. C'est vraiment horrible de ressentir ça parce que t'as toujours des boules au ventre avant d'aller à l'école en disant est-ce que c'est fini ou ça va continuer. Ça a duré à peu près 7 mois. Je me disais qu'est-ce que j'ai pu faire pour avoir...
Alors que tu étais victime du harcèlement, tu te sentais coupable d'avoir fait quelque chose.
Oui, je me sentais coupable d'avoir fait quelque chose.
Si tu avais choisi de te harceler, c'était un peu de ta faute. Et c'est pour ça que tu gardais le silence ?
Oui, un petit peu. Et ensuite, à la fin, je me suis dit que c'était pas de ma faute. D'accord. Et j'ai parlé à mes parents. Et c'est surtout ma prof qui disait d'arrêter, sinon elle allait porter plainte.
Vous pouvez pas laisser quelqu'un ou un groupe continuer à faire ces actes-là. Parce que ces actes-là de harcèlement sont, alors vous avez moins de 13 ans, mais après 13 ans, sont pénalement punissables. Et pour ça, il faut le faire remonter. On peut, en 2 heures de temps, leur donner des notions de droit, parce que ces notions de droit, ils les vivent. Donc on ne fait que mettre des mots, souvent, sur des situations vécues. Et donc il fallait, eux qui vont aborder, et le monde du droit, et le monde tout court, et le monde de l'Internet, qu'ils aient déjà des comportements prudentiels, qu'ils soient attentifs à ce qu'ils causent, et qu'ils ne se laissent pas emporter par la furia, par l'anonymat que cette virtualité peut parfois comporter.
Et c'est la 2e édition de la Nuit du droit avec des débats, des conférences et des procès fictifs. Quelques 118 événements sont organisés un peu partout en France. La Russie sous le feu des critiques. Les Pays-Bas ont annoncé aujourd'hui l'expulsion de 4 espions russes. Dans le même temps, l'OTAN et l'Union européenne, l'Australie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni publiaient des communiqués incendiaires pour dénoncer des cyberattaques russes. Moscou ironise sur l'espionnité aiguë des Occidentaux, dénonçant une campagne de désinformation et des comptes pour enfants dignes d'Andersen. Mais les informations fournies par les Pays-Bas semblent assez tangibles, Pierre Benazet.
Le 10 avril dernier, 4 Russes munis de passeports diplomatiques atterrissent à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol. Ils descendent dans un hôtel de La Haye, proche du siège de l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. C'est dans cet hôtel qu'ils seront arrêtés sur instruction du MIVD, les services de contre-espionnage bataves. Ils surveillaient les 4 hommes depuis leur atterrissage. Expulsés vers la Russie, ils sont accusés, je cite, de tentative d'espionnage à distance rapprochée. Selon la ministre néerlandaise de la Défense, la voiture des 4 hommes était stationnée en face du siège de l'OIAC, qui à ce moment-là se penchait sur le poison Novichok utilisé à Salisbury contre les Skripal. Ce véhicule était équipé d'appareils électroniques destinés à capter le réseau Wi-Fi de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques pour tenter de pénétrer dans ses serveurs informatiques. Les Pays-Bas affirment avoir retrouvé dans le véhicule un reçu de taxi pour un trajet vers un aéroport moscovite au départ du siège du GRU, les services de renseignement de l'armée russe. Un ordinateur en leur possession contenait par ailleurs des informations sur le vol MH17 abattu au-dessus de l'Ukraine. Ces révélations ont entraîné des réactions en cascade. L'OTAN dénonce à nouveau les immixtions russes dans les campagnes électorales des pays alliés, l'usage de la force contre les pays voisins et de vastes campagnes de désinformation. Le Royaume-Uni accuse formellement le GRU d'avoir empoisonné les Skripal et le Canada estime de son côté que ces mêmes services ont piraté son agence de lutte contre le dopage.
Et la justice américaine annonce l'inculpation de 7 agents du renseignement militaire russe pour une campagne de cyberattaque contre des instances sportives, une agence internationale et une société américaine spécialisée dans l'énergie nucléaire. Un nouveau bateau humanitaire affrété par plusieurs associations et battant pavillon italien est en route pour patrouiller au large de la Libye. Il s'appelle le Mare Jonio. L'Aquarius, lui, est rentré dans le port de Marseille. L'aide parvient au compte-gouttes sur l'île indonésienne des Célèbes. Depuis le tremblement de terre suivi d'un tsunami le 28 septembre, les autorités ont recensé 1411 morts et plus de 2500 blessés. Une centaine de personnes sont encore portées disparues. Dans la région de Palu, les voies d'accès sont très endommagées et il est difficile d'acheminer l'aide. Des pompiers français sont venus de Limoges pour assister les secours indonésiens. Ils évacuent les corps encore pris au piège des décombres dans des conditions de travail difficiles. Ils témoignent au micro de Joël Brunner.
Avant le tsunami, les visiteurs pouvaient admirer la mer depuis l'hôtel Mercure de Palou. À présent, c'est depuis la mer que l'on peut observer les lits et l'intérieur des chambres que les murs effondrés offrent à la vue de tous. Alors que deux engins s'échinent à nettoyer les gravats, cinq Français épaulent les opérations, consistant à pénétrer le bâtiment à la recherche des corps pris au piège des décombres. Parmi eux, le chef des opérations.
Philippe Besson, 55 ans, je suis officier de sapeurs-pompiers professionnel et le fondateur de Pompiers d'urgence internationale. Ils n'ont pas fait appel à l'aide internationale dans le domaine de la recherche parce qu'ils ont beaucoup de personnel, et vous pouvez le constater, il y a quand même beaucoup de monde. Ils ont du matériel. Après, je pense qu'ils ont besoin qu'on les guide, notamment dans les méthodes de recherche, dans la façon d'approcher une opération de ce type.
Et de souligner les risques très importants.
C'est dangereux parce que toute la structure du bâtiment a été endommagée. Donc tous les murs porteurs sont entièrement fissurés. Et on parle de fissures traversantes, c'est-à-dire qu'on voit le jour à travers toutes les fissures. Donc il n'y a aucune stabilité du bâtiment. Et c'est surtout en cas de réplique qu'il peut y avoir un problème pour nos équipes.
Sur les 40 disparus que compte l'hôtel, seules 5 victimes ont pour l'instant été extraites des décombres. L'arrivée des Français devrait accélérer cette opération-ci. Mais le mercure n'est qu'une goutte dans l'océan des dégâts laissés par le tsunami.
Joël Bronner à Palou, en Indonésie. Un fox, c'est le mot inventé par la commission d'enrichissement de la langue française et destiné à remplacer l'anglo-saxon fake news. Un fox, donc, pour information fallacieuse, désigne une information mensongère ou délibérément biaisée. Justement, France Culture vous invite ce samedi au forum Les Idées Claires qui porte sur la désinformation. Exemple récent en Tunisie, une étudiante a été autorisée à travailler sur une thèse partant du postulat que la Terre était plate. L'affaire a fait scandale et ce travail de thèse a été stoppé. Mais pour la physicienne Fawzia Sharfi, professeure émérite à l'université de Tunis, cette histoire n'est malheureusement pas anecdotique. À l'université, explique-t-elle, le religieux prend de plus en plus le pas sur le scientifique et le phénomène s'est accéléré avec Internet. Maureen Mercier a rencontré Fawzia Sharfi à Tunis.
Fawzia Sharfi l'affirme, avant la révolution de 2011, jamais une étudiante n'aurait pu soumettre pareil sujet de thèse. Mais aujourd'hui, il y a tous les risques que cela se reproduise.
Depuis la révolution, il y a eu ce qu'on appelle la troïka. Pas seulement islamiste, mais c'était quand même un art qui menait le jeu. Le cocktail islamisme-internet, ça donne cette prolifération d'écrits qui n'ont ni queue ni tête. Il y a eu trop peu de réactions de fond par rapport à ce que je considère une vraie dérive au sein de l'université. C'est pas acceptable.
Le religieux qui s'attaque à la matière scientifique apparaît dans les années 70 avec l'islam politique. Mais aujourd'hui, avec l'internet et les théories farfelues qui pullulent, la matière scientifique à l'université est vraiment en danger selon Fawzia Sharfi.
Je voudrais rappeler par exemple des discussions que j'ai pu avoir avec des collègues islamistes fin des années 70 qui déjà considéraient que l'homme n'avait jamais marché sur la Lune. Ça restait très confidentiel. Hein. Et en fait, c'est le refus de la rationalité, c'est le refus de la séparation du religieux et du savoir. Pour eux, c'est une manière de prôner la nécessité d'être en tout point conforme à l'islam. Aujourd'hui, je suis très inquiète parce que ce qui est particulièrement nouveau, c'est l'importance de ce phénomène. Parce que lorsque mes étudiants me disaient à l'amphi « Non, Einstein s'est trompé », on était dans un amphi de 300 personnes. Là, c'est 7,5 millions de Facebookers qui peuvent effectivement partager ce type de remise en cause finalement de ce qu'est l'autonomie de la pensée, l'autonomie de la science.
Le problème, c'est que ceux qui sabotent le rationnel au profit du religieux agissent bien avant le monde académique.
Ceux qui propagent ces fake news, ceux qui propagent leur vision de, entre guillemets, de la science habillée de beaucoup de versets coraniques ou de beaucoup de religions, ils ont énormément de moyens. Il y a des associations supposées caritatives qui financent l'éducation, etc., qui financent des jardins d'enfants, entre autres. Beaucoup sont d'inspiration wahhabite. Et ça, c'est très grave parce que le but, c'est d'imposer une certaine vision de l'islam. Ça, c'est un phénomène nouveau puisque l'Arabie saoudite a décidé de faire propager cet islam.
Comment on lutte la contre ?
La lutte est difficile, je vais vous dire. Il y a des professeurs qui se battent, bien sûr, et qui essayent de faire en sorte que leurs élèves soient ouverts sur le monde, etc. Mais les moyens sont très limités.
Le combat doit être mené sur Internet et pas seulement sur les bancs de faculté. Sur Facebook, Fawzia Sharfi s'oblige à contrer à coups d'arguments scientifiques ceux qui remettent en cause les sciences. Il faut avoir les reins solides, se faire traiter de guenon lorsqu'on défend les sciences. Oui, c'est devenu récurrent.
Maureen Mercier à Tunis. Et si vous souhaitez participer au forum Les Idées Claires, rendez-vous samedi de 9h à 13h30 au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Demain vendredi, le temps sera généralement ensoleillé, sauf en Corse où il y aura des averses parfois orageuses. Les températures seront comprises entre 2 et 20 degrés le matin du nord au sud, entre 20 et 29 l'après-midi. Il fera même 30 degrés dans le sud-ouest. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.